fermeture administrative du 1881 après la violente rixe de début mars. Le Haut Commissariat a pris un arrêté qui a été rendu public aujourd'hui. Le gouvernement se penche sur le dopage. Il envisage de rétablir les contrôles antidopage arrêtés depuis 2021 en raison d'un problème juridique. Stimuler les opportunités d'affaires pour les entreprises locales. C'est l'un des buts du salon Habitat Déco qui a ouvert ses portes ce matin. Les pays de l'Union européenne continueront d'apporter un soutien financier et militaire régulier et prévisible à l'Ukraine. Ils étaient réunis en sommet à Bruxelles la nuit dernière. L'avenir du conclave sur les retraites en question en métropole. Malgré le retrait de FO, de la CGT et de l'UDP, les participants restants envisagent de poursuivre leurs travaux. Et puis une double actualité football dans la page sport. L'équipe de France est inclinée 2-0 en Croatie en match aller des quarts de finale de Ligue des Nations. La sélection calédonienne joue, elle, à 13h sa demi-finale du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, un coup d'œil sur le magazine Transparence qui suivra cette édition. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François, c'est Thierry Santal, membre du gouvernement.
En charge du budget, qui sera votre invité dans ce magazine Transparence que l'on retrouvera donc à partir de midi. On rappelle que le gouvernement a adopté son budget hier et qu'il sera présenté au Congrès à la fin de la semaine prochaine. Comment va-t-il été possible d'équilibrer ce budget? À quoi va servir le prêt de 120 milliards de l'État? Et quelles vont être les conséquences de ce budget pour les communes et les provinces, pour les Calédoniens? On se retrouve donc d'ici une petite demi-heure en votre compagnie, Elisabeth, pour Transparence. Avec Thierry Santa, et puis on vous retrouvera à 16h45 pour le club politique. Le budget primitif adopté hier par le gouvernement sera aussi à l'ordre du jour avec le dossier aérien ou encore l'actualité des deux compagnies Aircalais et Aircalin. Et nous dirons aussi un mot du clip incitant à la violence diffusé par le groupe Initiative de Bakou contre lequel des plaintes ont été déposées. Club politique qui débute donc cet après-midi à 16h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour qui concerne le budget de la Nouvelle-Calédonie. Le poids de la dette de la Nouvelle-Calédonie vous semble-t-il trop important dans le projet de budget adopté hier par le gouvernement? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la sélection calédonienne de football ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Ils ne sont que 3% à penser qu'ils vont y parvenir. Les Calédoniens, je vous le rappelle, jouent à 13h10 leur demi-finale du tournoi de qualification à cette Coupe du Monde. On en reparlera évidemment dans la page sport. Je vous le disais en titre, le 1881 fermé administrativement pour un mois, une décision prise après la rixe de la nuit du 8 au 9 mars dernier qui impliquait 300 à 400 personnes. L'arrêté du Haut Commissariat publié mardi a été rendu public aujourd'hui, Nicolas Legrand.
Oui, ce soir-là, l'établissement de Nouville organise la Ladies Night, une soirée festive à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Seulement, l'alcool coule à flot et la situation devient rapidement tendue. C'est pourquoi les gérants décident de terminer plus tôt la soirée pour éviter les débordements, une situation qui a produit finalement l'effet inverse puisque rapidement la fête a dégénéré et certains participants ont décidé de s'en prendre à la fois au personnel et au matériel de l'établissement de nuit. Les affrontements se sont ensuite poursuivis sur le parking, une bagarre qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré au flashball pour disperser les nombreuses personnes hostiles qui ont jeté des cailloux et utilisé également des bouts de bois pour se battre. 11 personnes avaient été blessées, dont 2 grièvement. Une victime est d'ailleurs paralysée, elle est hémiplégique et un agent de sécurité s'est vu prescrire 45 jours d'ITT. Des véhicules ont également été dégradés. Le Haut Commissariat estime que l'établissement est en partie responsable et avait d'ailleurs convoqué les gérants le 10 mars dernier pour un rendez-vous. L'État, qui est responsable de la sécurité publique sur le territoire, avance aussi comme argument pour justifier cette fermeture administrative que des faits similaires s'étaient déjà produits par le passé. Le 1881 restera donc porte close jusqu'au 18 avril.
Le sort du commissaire Henri Drouat, examiné à Paris la nuit dernière pour nous en conseil de discipline, patron de la police judiciaire à Nouméa. Il est accusé d'un manque de loyauté et d'un management qualifié de despotique dans un rapport de l'inspection générale de la police nationale. Il a été suspendu de ses fonctions il y a 4 mois. La décision du conseil de discipline n'est pas connue. Elle sera officielle lorsqu'elle aura été validée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Le procès pour meurtre sur conjoint se poursuit aujourd'hui aux assises pour une 3e journée d'audience. Un homme est jugé jugé pour avoir tué sa compagne en lui assenant plusieurs coups sur le crâne avec une bouteille après une dispute conjugale. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'il se décide à appeler les secours. Au premier jour de son procès, le profil de l'accusé a été dressé, puis les témoignages se sont succédés. Hier était une journée largement consacrée aux événements qui ont précédé le drame. Aujourd'hui, place aux auditions des parties civiles. Les plaidoiries devraient avoir lieu cet après-midi sous réserve de la bonne avancée des témoignages. Et puis toujours au chapitre justice, c'est Camille Miansoni qui devrait être le prochain procureur général de Nouméa pour succéder à Bruno Dalle, qui va prendre la tête de l'autorité monégasque de la sécurité financière, Nicolas.
Oui, Jean-François, Camille Miansoni est actuellement procureur de la République à Brest, où il s'est notamment signalé dans la lutte contre les stupéfiants. Âgé de 66 ans, il est né à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, et il a été naturalisé français en 1994. Il devrait arriver prochainement en Nouvelle-Calédonie pour prendre les fonctions de procureur général, sous réserve toutefois de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Cette info pratique maintenant, le vol Aircal vers Lifou annulé ce matin. Le Air Calédonie a subi un léger problème technique qui a rapidement été réparé et les passagers en souffrance ont été reclassés sur les autres vols de la journée. D'autre part, d'après nos informations, les coutumiers de Marais ont annoncé le blocage de l'aérodrome de La Roche à partir de lundi. Ils protestent contre le projet de déplacer les vols d'Aircal de Magenta à Tontouta. Et puis des coupures radio et mobiles constatées toujours à Marais. L'OPT informe qu'en raison de la coupure d'énergie survenue mercredi dernier, causée, rappelons-le, par un acte de vandalisme sur le réseau Enercal, la diffusion de Radio Rythme Bleu est actuellement interrompue. Par ailleurs, les services mobiles sont également indisponibles à Tadine, ainsi que dans les tribus de Mébouette, Wabao, Médou et Eni. Le retour à la normale est espéré d'ici la fin de journée. Enfin, le conseil municipal de Boulou-Paris se réunit à 17h ce soir. Il sera consacré à l'examen du budget 2025 de la commune. Budget établi à hauteur prévisionnelle de 950 millions de francs, 619 en fonctionnement et 331 en investissement. Il est 11h37, une première pause dans ce journal. On parlera de la reprise des contrôles antidopage annoncés par le gouvernement. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La cave du château, deux adresses pour une expérience unique. Retrouvez-nous au complexe Château Royal, 140 promenade Roger Larocque en Svata, et complexe Le 4, 186 rue Jacquier-Caoué au 4e kilomètre. Deux adresses pour mieux vous servir et vous conseiller pour tous vos moments et toutes vos envies. Consultez toutes nos références sur notre site lacavduchâteau.nc, ouvert du lundi au samedi. Retrouvez nos horaires sur notre page Facebook La Cave du Château.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 22 février au 23 mars, transformez des petits prix en grand plaisir avec notre salon de jardin multifonction Diego à 30 000 francs seulement. Alors profitez-en pour aménager votre jardin. Avec Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité sur le territoire et le gouvernement travaille à la reprise de la lutte contre le dopage. Un projet de délibération du Congrès a été déposé afin de mettre en conformité la réglementation calédonienne avec les règles édictées par l'Agence mondiale antidopage. Il vise également à renforcer l'arsenal de sanctions administratives et pénales en cas d'infraction. Les contrôles avaient été arrêtés en 2021 en Calédonie en raison de problèmes juridiques, mais devraient donc reprendre si le texte est adopté par le Congrès. Une demande de longue date qui avait été formulée par le CTOS, explique son directeur Michel Quintin.
Ça a mis du temps parce que ça fait plus de 3 ans qu'on sollicite le gouvernement pour être en conformité avec la réglementation internationale. Et donc, enfin, le texte abouti va être présenté au Congrès, qui est une très bonne chose d'une part pour la santé des athlètes. Ça cadre justement les produits qui peuvent être utilisés et pas utilisés, surtout les produits interdits, on va dire. Ça nous permet également d'être en conformité avec les réglementations internationales et de pouvoir participer à des épreuves internationales. On était dans une situation un petit peu floue depuis 2021 et notamment nos athlètes ont fait l'objet lors des derniers Jeux du Pacifique, un nombre de contrôles très très élevé par rapport aux autres pays, non seulement parce qu'ils ont gagné des médailles d'or, mais également parce que justement on était dans le viseur de l'organisme qui gère la lutte contre le dopage dans le Pacifique, puisqu'on n'avait pas de contrôle en Nouvelle-Calédonie.
Le gouvernement a également fixé et mis à jour la liste des substances et des méthodes de dopage interdites. Cérémonie hier soir à la CCI. 64 étudiants en alternance ont obtenu leur diplôme. Ces lauréats de la promotion 2024 ont décroché en 1 ou 2 ans l'un des 12 titres ou diplômes décernés par le Centre de formation en alternance de la CCI dans le domaine du commerce, du service aux entreprises, du médico-social, de la logistique ou du numérique. Une belle récompense pour eux, explique David Guyenne, le président de la CCI.
C'est vraiment un moment très émouvant et l'alternance fait vraiment partie des priorités
pas que pour la CCI, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes très fiers d'avoir 64 diplômés, un taux de réussite de 90% aux examens, d'insertion de 90% et dans cette insertion de CDI à 75%. Donc vraiment d'excellents résultats qui prouvent que l'alternance est une voie royale pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens vraiment à féliciter ces étudiants qui ont été très persévérants dans une année compliquée, mais aussi les entreprises qui ont cru en eux et qui ont joué le jeu de l'alternance. Et féliciter aussi, évidemment, les équipes de la CCI pour les avoir amenées à une si belle réussite.
Parmi ces 64 diplômés, Ruby Partoli-Cromo, diplômée en BTS GPME, et Mathieu Gaucher en BTS Comptabilité Gestion, ils sont tous les deux majors de leur promotion.
J'étais en alternance en BTS GPME. Je suis fière d'être alternante, d'avoir été alternante et d'être major parce que c'était compliqué de mener de front l'école et la vie de famille ainsi que le travail. Je suis fière de moi parce que c'était une reprise d'études et avec un enfant à charge toute seule, c'était compliqué, mais je suis fière de moi.
Je suis donc actuellement diplômée de mon BTS comptabilité gestion et je suis actuellement aide comptable au cabinet PGA. C'est déjà un honneur effectivement car c'est 2 ans de travail qui culmine justement avec mon diplôme. En même temps, c'est aussi tous les autres on a tous travaillé pour réussir et atteindre enfin notre objectif. Disons que j'ai toujours aimé étudier, donc c'est quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir continuer mon parcours, j'ai pas eu de coupure et j'ai toujours aimé apprendre. C'est ce qui a permis en tout cas d'avoir des bons résultats. C'est vrai que ça n'a pas été forcément facile, mais on a eu la chance que les entreprises soient avec nous justement, donc elles savaient que c'était difficile déjà pour nous. Et en même temps, le fait que la CCI ait mis en place un système, c'est que le fait que tout le monde ait joué le jeu, ça nous a aidés surtout en tout cas.
Des filières et des diplômes reconnus puisque 9 alternants sur 10 sont insérés professionnellement 9 mois après leur sortie de formation. Plus d'une centaine d'artisans sont regroupés depuis ce matin à Nouville. La Chambre des métiers et de l'artisanat organise en effet le salon Habitat Déco qui réunit des professionnels de l'aménagement intérieur et extérieur, Charlotte Coulson.
Événement incontournable pour les designers, les décorateurs ou encore les professionnels du bâtiment. Le salon Habitat Déco offrira aux artisans un espace pour mettre en lumière leur savoir-faire. Un soutien qui est particulièrement apprécié en ce moment. Sur place, Mélissa expose ses savons artisanaux sous la marque Baebao et Valentin propose quant à lui ses produits alimentaires transformé sous l'enseigne Valab.
En fait, justement, à partir de juin dernier, j'ai eu tellement peur que mon activité s'arrête que j'ai développé plusieurs façons de faire. Donc, j'ai fait maintenant plus de marchés et en fait, ça fonctionne bien. C'est vrai que c'est un salon que je faisais pas du tout avant. Donc, on s'est regroupé à plusieurs artisans pour le faire. C'est un salon qui dépasse quand même largement les budgets des salons que je fais habituellement. Et là, aujourd'hui, ils font quand même une proposition en remboursant la moitié du stand. C'est énorme pour nous. Donc, moi, je me sens assez accompagnée. Voilà, j'attends beaucoup de ce salon.
Pour moi, ce qui m'arrange beaucoup, c'est ce genre d'événements, les salons, les foires, et c'est à ces moments-là qu'on vend le plus, on va dire, qu'on voit le plus de monde, qu'on rencontre des nouvelles personnes, qu'on a des nouvelles idées. Et c'est ça, c'est nous aider déjà, ça, tout ça. Moi, je suis très confiant. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Si tout le monde se soutient et tout le monde met du sien, je pense qu'on va s'en sortir. Ouais.
Et le parking était déjà bien rempli ce matin pour le lancement du salon à 9h, en présence des membres du gouvernement, Christopher Gigès et Pételo Sao, ainsi que de la présidente de la CMA, Elisabeth Rivière.
On a 140 exposants. Pour nous, c'est quand même un très, très beau salon. Dans cette période difficile, les artisans et l'ensemble des entreprises calédoniennes y croient puisqu'ils sont venus. Je crois que ce salon permet de redonner un peu d'espoir, de venir chercher des clients et puis de se retrouver aussi tous ensemble. Et je pense que ces salons sont là pour redonner cette vivacité et ce soutien aux entreprises artisanales de Nouvelle-Calédonie. Alors, on travaille tous les jours avec différents collaborateurs pour essayer de trouver des dispositifs à mettre en place. C'est tous les jours un parcours du combattant pour nous, mais je veux que les artisans le sachent. On met tout en œuvre pour que des mesures de soutien adaptées soient mises en place dans les prochains mois.
Et le salon Habitat Déco se poursuit cet après-midi jusqu'à 18h. Demain, de 9h à 18h et dimanche, de 9h à midi, à la Maison des Artisans à Nouville.
Le projet FALA entre dans sa phase finale. Initié en 2020, cette vaste étude scientifique de l'UNC a été financée par l'Union européenne. 95 chercheurs se sont intéressés aux agricultures familiales, aux modes de vie et à la santé en contexte insulaire aux îles Salomon, à Fidji, au Vanuatu et sur le territoire. Une conférence avait lieu cette semaine en Nouvelle-Calédonie pour présenter les premières orientations. Jean-Marie Fautzing, professeur des universités et le porteur scientifique du projet FALA.
Nous avons eu la chance que le projet déposé en 2019 s'est retrouvé en face d'une situation de la crise sanitaire. Les circuits courts sont une recommandation forte parce que il a fallu ne compter que sur les productions locales. La question de la santé passe aussi par la sécurité alimentaire. L'importation qui semblait, dans le contexte de la mondialisation, être la solution, s'est avérée être insuffisante. Ça, c'est déjà une première piste. Une deuxième recommandation, c'est une meilleure prise en compte pour pérenniser ces savoirs et ensuite permettre qu'elles soient intégrées dans les programmes scolaires également.
Et des recommandations seront transmises au pouvoir public des quatre territoires, Île-Salomon, Fidji, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie, d'ici la fin de l'année. 11h46, dans un instant, c'est une page consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde. Nous ferons un point notamment sur le dossier d'avancée du cessez-le-feu en Ukraine.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Tous les samedis, au marché de Ducosse, sous la halle du marché de Gros, plus de 80 exposants vous accueillent dès 5h du matin. Poissons, crustacés, fruits, légumes, œufs, viande, charcuterie, produits laitiers, miel, fromage, achats, confiture. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le marché de Ducosse, c'est tous les samedis matin et aussi chaque mercredi à partir de midi.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole et à l'étranger, on retrouve Jean-François Bodin.
On va commencer par le dossier ukrainien. Après les échanges téléphoniques que Donald Trump a eus successivement avec le président russe, puis le président ukrainien, c'est au tour des pays de l'Union européenne de se pencher sur le projet de cessez-le-feu actuellement en négociation. Les 27 se sont retrouvés à Bruxelles pour un sommet extraordinaire. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pas d'annonce très concrète, mais une réaffirmation du soutien inconditionnel à l'Ukraine. Le président Zelensky s'est d'ailleurs adressé aux dirigeants européens à distance, les appelant à ne pas baisser la garde face à Vladimir Poutine. L'homme fort du Kremlin fait désormais de la fin de l'aide occidentale à Kiev une condition préalable à tout accord de paix, mais pas question de plier. L'Union européenne continuera d'apporter à l'Ukraine un soutien financier régulier et prévisible. Tout le soutien militaire ainsi que les garanties de sécurité seront fournies, promet le Conseil dans ses conclusions, sans toutefois donner de détails ni de chiffres précis. Les chefs d'État et de gouvernement se disent aussi aux côtés de Kiev sur la voie de son adhésion à l'Union. Une déclaration commune de soutien aux Ukrainiens rédigée à 26 et non pas à 27. Comme il en a pris l'habitude, le Hongrois Viktor Orban a refusé de la signer.
Le ministre français de l'économie Éric Lombard a lui annoncé la création d'un fonds spécial dans lequel les Français pourront participer à l'effort de réarmement. Annonce faite à l'issue d'une réunion à Bercy des entreprises de défense. Avec ce fonds, l'État espère mobiliser au total 5 milliards pour accompagner la montée en puissance et honorer les commandes à venir. Chaque Français pourra participer à ce fonds à partir d'une mise minimum de 500 euros, c'est-à-dire 60 000 francs. Toujours dans l'actualité à l'étranger, après 2 ans passés dans les prisons iraniennes, accusés d'espionnage, le Français Olivier Grondeau est libre. Une annonce faite ces dernières heures par Emmanuel Macron. Après 23 mois de captivité et de détention, Olivier Grondeau a retrouvé le sol français. Il est actuellement hospitalisé pour des examens. Selon son entourage, il est très affaibli ces derniers mois, notamment sur le plan psychologique. 10 ans de prison, 7 000 euros d'amende, c'est-à-dire 800 000 francs CFP. L'écrivain algérien Boualem Sansal, incarcéré depuis son retour en Algérie en novembre dernier, a comparu devant le tribunal correctionnel d'Alger. À 80 ans, atteint d'un cancer, il est accusé par Alger d'atteinte à la sécurité et à l'unité nationale. Son procès a duré moins d'une demi-heure, sans avocat. Et le ministère public a donc requis 10 ans de prison et 7 000 euros d'amende. Un procès expéditif qui n'a de procès que le nom, s'insurge l'un de ses avocats, Maître François Zimret.
Un procès qui n'est pas rendu publiquement, contradictoirement, et un procès qui est rendu sans défense, ce n'est pas un procès.
Les autorités françaises continuent de suivre le dossier de près. Rien n'est encore joué, a commenté le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
C'est un récusatoire, ce n'est pas une accusation. Ce que je vous dis, c'est que malgré les peines de prison très lourdes, y compris dans le cas d'Olivier Grondeau qui avait été prononcé contre lui, nous avons maintenu la pression et nous avons fini par obtenir sa libération.
Et le verdict concernant le procès de Boualem Sansal sera rendu le 27 mars prochain. En métropole, l'avenir du conclave sur les retraites reste incertain. Après les déclarations du Premier ministre François Bayrou, qui a fermé la porte à un retour de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, FO, la CGT, côté syndicat, et l'UDP, côté organisation patronale, ont quitté les discussions. Les partenaires restants se sont retrouvés la nuit dernière pour nous, comme chaque jeudi. Ils envisagent de poursuivre leurs travaux, mais en s'affranchissant en quelque sorte du gouvernement. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
À l'exception de la CFTC qui reverra sa position mi-avril, si les discussions avec le patronat patinent, tous les partenaires sociaux veulent aller jusqu'au bout. Et la proposition de la patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon, qui consiste à se dégager du cadrage gouvernemental pour organiser un nouveau cycle de réunions autonomes, a trouvé écho auprès de la CFE-CGC, comme l'a expliqué sa négociatrice Christelle Thiéfine.
À partir d'aujourd'hui, on s'affranchit de ce que a pu dire le gouvernement. Nous, on décide de finalement qu'est-ce qu'on veut faire autour de la table.
Deux participants semblent réservés quant à ce changement de cap, le MEDEF et la CFTC qui l'ont à peine évoqué, mais l'autre organisation patronale, la CPME, est plus que partante, à l'image d'Éric Chevet, son négociateur.
Les travaux sont constamment pollués par le débat politique. Nous disons, banco, récupérons le pilotage.
Concrètement, les partenaires sociaux envisagent de piloter le régime général à la place de l'État, ce qu'ils font déjà avec l'Agirc-Arrco, le régime complémentaire qui a l'avantage d'être à l'équilibre financier, alors que le régime général accuse près de 7 milliards d'euros de déficit malgré la réforme de 2023.
L'actualité en métropole, c'est aussi ce petit coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. L'édition du Guide Michelin 2025 est attendue dans 10 jours, mais on sait déjà que le chef étoilé Georges Blanc va perdre la 3e étoile de son restaurant à Vaunat dans l'Ain. À 82 ans, il concède que c'est un coup dur, mais il relativise.
Je ne pensais pas quand même qu'on était menacé. J'ai rencontré ce matin le directeur qui m'a dit qu'on était bon pour les sauces, mais que les inspecteurs n'étaient pas convaincus du niveau 3 étoiles. Mais c'est un mal pour un bien, en fait, parce que même si mon ego a souffert, je vais quand même essayer de rester en forme, de faire des choses avec plaisir, mais sans me mettre la pression comme j'ai connu pendant si longtemps.
Et Georges Blanc détenait sa 3e étoile dans son restaurant depuis 44 ans et sans discontinuer. 11h52, la dernière pause de ce journal avant de défiler l'actualité sportive dominée par l'actu foot aujourd'hui.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h, venez découvrir comment rire et être écolo. Un texte de Rémi DeVos, écrit pour le théâtre, sur les bassines d'eau. Des jeunes investis prêts à en découdre pour toutes les bonnes raisons du monde. Ne ratez pas La Guerre de l'eau, le samedi 29 et dimanche 30 mars à 18h au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc. Rendez-vous au Théâtre de Lille.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, La Maison de la Clôture. Tout le sport, en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec une double actualité football aujourd'hui, on va commencer avec l'équipe de France qui disputait ce matin le quart de finale aller de la Ligue des Nations. C'était face à la Croatie et les Bleus, les Officiaux, se sont malheureusement inclinés de 0-0.
Oui, une défaite logique au vu de la prestation des tricolores et notamment cette première mi-temps complètement ratée. Un pénalty concédé dès la 7e minute, arrêté tout de même par Mike Maignan avant d'encaisser 2 buts. D'abord à la 26e minute, puis dans les arrêts de jeu de la première période. Donc le constat est lucide pour le sélectionneur Didier Deschamps. Trop d'erreurs techniques, trop d'approximations et beaucoup trop de pertes de balles. On l'écoute.
On a donné beaucoup d'opportunités. Il y a de la qualité en face. Et même si on a bien débuté le match, on avait de bonnes intentions. Et après, ces erreurs techniques nous ont pénalisés, soit pour ressortir le ballon ou soit pour donner évidemment des opportunités à l'adversaire qui a cette qualité de bien se projeter. Et elle l'a bien fait, donc trop d'erreurs, quelques glissades aussi. Cette première mi-temps, elle n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'on est capable de faire. Elle a été trop laborieuse. En deuxième mi-temps, on a fait beaucoup de meilleures choses, bien évidemment, sans pour autant trouver l'efficacité, malheureusement.
Et malgré la défaite 2-0 à Split, donc en Croatie, rien n'est fait pour les joueurs de Didier Deschamps puisqu'il y aura un match retour qui est prévu lundi matin. Ce sera à 6h45, heure de Nouméa. Dans les autres rencontres de la matinée, on notera la défaite du Portugal 1-0 contre le Danemark, la victoire de l'Allemagne 2-1 sur l'Italie et puis le match nul de l'Espagne face aux Pays-Bas, 2-0.
Et puis le football dans la région, c'est aussi la sélection calédonienne qui va disputer dans pas longtemps maintenant la demi-finale des qualifications océaniennes à la Coupe du Monde.
Oui, dans un peu peu plus d'une heure à 13h10. Ce sera au Sky Stadium de Wellington. Les Cagous vont effectivement jouer une rencontre fraternelle, mais tout sauf amicale, contre Tahiti. D'un côté comme de l'autre, l'objectif est clairement affiché, s'imposer pour continuer de rêver. Le vainqueur de cette demi-finale défiera lundi la Nouvelle-Zélande ou les Fidji. En cas de victoire lors de cette finale, les Calédoniens obtiendront leur billet pour la Coupe du Monde. En revanche, en cas de défaite, il faudra passer par des barrages internationaux contre des sélections américaines, asiatiques et africaines. Ce matin, le sélectionneur Johan Zidaner a dévoilé aux joueurs le 11 de départ. Ce sera César Zeoula qui sera capitaine. Une composition d'équipe disponible sur notre site internet rrb.nc. Nouvelle-Calédonie, Tahiti, c'est donc à suivre en direct dès 13h. Coup d'envoi à 13h10 sur la plateforme internet de la FIFA. Le site est FIFA+.
Et on termine avec un mot de cyclisme sur piste. Les championnats d'Australie des moins de 17 ans démarrent demain à Brisbane. Parmi les 200 pistards engagés, on retrouve trois Calédoniens. Une au Gardin, 14 ans, Enzo Martoreggio, 15 ans, et Chad Charré, 16 ans, qui disputeront plusieurs épreuves en individuel et par équipe. La poursuite, la vitesse, la course scratch, le kérin, la course au point et le contre-la-montre.